Je vous invite à ouvrir votre Bible dans la première épître de Pierre. Nous continuons notre étude de ce livre, nos méditations plutôt dans cette épître, première épître de Pierre, chapitre 1. Première épître de Pierre au chapitre 1. Et je vais lire encore les versets 13. Puisque nous sommes dans ces versets, dans la partie un peu pratique, où l'apôtre Pierre donne des exhortations aux croyants qui sont, selon le verset 1, étrangers et dispersés dans le pont, dans la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Donc nous lisons à partir du verset 13. La parole de Dieu, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte et tremblement, pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent et de l'or que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Verset 22, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. » Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Jusqu'ici, la lecture. Je commencerai par une question pour nous, pour vous. Qu'est-ce qu'un chrétien? Qu'est-ce qu'un chrétien? Alors, si je demande, êtes-vous chrétien? Peut-être beaucoup diraient oui. Je suis chrétien, je suis chrétienne. Mais comment est-ce que nous définirions un chrétien? Qu'est-ce qu'un chrétien? Pour la plupart des gens, un chrétien, c'est quelqu'un qui a adhéré à une religion qu'on appelle le christianisme et qui est souvent d'ailleurs confondu avec le catholicisme. Un chrétien, pense-t-on, parfois, c'est quelqu'un qui croit en un certain nombre de choses. Et des choses parfois dépassées, qui observe une certaine conduite. C'est quelqu'un qui refuse de regarder pour certains encore en face l'évolution de la société et qui tente de faire valoir sa croyance sur les autres. Mais je vais faire comme Jésus quand il avait dit « Qui dit-on que je suis ?» Et puis après, il a dit à ses disciples « Mais vous, qui dites-vous que je suis ?» Je vous pose la question « Mais vous, que dites-vous » Qu'est-ce qu'un chrétien, selon vous? Essayez de penser comment vous auriez répondu à cette question. On trouve des définitions, mais dans l'Écriture, ici, dans le passage que nous avons, il y a un mot que Pierre utilise deux fois et qui identifie, qui décrit fondamentalement ce que c'est qu'un chrétien. Verset 22, il dit... Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, ça c'est ce que le chrétien fait, il obéit, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous, c'est ce qu'il est appelé à faire, n'est-ce pas? Et verset 23, il dit, puisque vous avez été régénérés. Ça, c'est ce qu'ils sont. Et c'est la raison pour laquelle il est appelé à aimer les frères avec un amour ardent, un amour fraternel, sincère. Et au verset 3, rappelez-vous, au verset 3 du chapitre 1, il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. C'est le même mot, c'est les deux seules fois dans la Bible où on trouve ce mot, ce mot-là, qui est traduit ici par régénéré. Donc, il est traduit autrement ailleurs, mais ici, c'est les deux seules fois. C'est comme si, en fait, Pierre leur disait, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous êtes chrétiens. Qu'est-ce que ça veut dire? Et le chrétien, c'est celui qui est régénéré. Donc la raison fondamentale qu'il avance à l'appui de l'exhortation d'amour qu'il leur donne, c'est le fait qu'ils sont régénérés. Mais qu'est-ce que ça veut dire, être régénéré? Quel est le sens de ce mot? Le sens ici, c'est celui d'être né, renaître, si vous voulez, on pourrait dire, renaître, d'être né de nouveau. L'exprime, comme Jésus l'avait dit à Nicodème, la nouvelle naissance, le fait de naître de nouveau. Donc l'apôtre Pierre demande aux croyants de manifester les uns envers les autres un amour fraternel, fervent, de tout leur cœur. Et il donne comme raison le fait qu'ils sont nés de nouveau. C'est-à-dire, vous avez maintenant une disposition, quelque chose, vous êtes d'une nature telle que vous pouvez faire cela. Vous pouvez vous aimer les uns les autres. On pourrait dire, c'est comme, Pierre pouvait, on a l'impression qu'il anticipe la question, ce que pourraient lui poser ses lecteurs, quand il dit, aimez-vous les uns les autres avec un amour ardent et de tout votre cœur. Et certains pourraient dire, mais Pierre, tu sais bien que ce n'est pas facile, c'est impossible de s'aimer vraiment comme ça. D'ailleurs, souviens-toi de ta propre question que tu avais posée au Seigneur Jésus-Christ quand tu avais demandé, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère? Serait-ce jusqu'à 7 fois? C'était une question que Pierre avait posée, n'est-ce pas, à Jésus. Et puis Jésus avait dit, non, mais c'est beaucoup plus que ça. De manière continuelle, tu devrais pardonner, quasiment impossible pour un homme d'accomplir les choses de cette manière-là. Pierre répond donc, aimez-vous ardemment les uns les autres parce que vous avez été régénérés, parce que vous êtes nés de nouveau. Et donc la régénération est présentée ici comme le fondement de la pratique du chrétien, comme la source. On pourrait dire, quelque part, de la pratique du chrétien, comme la raison fondamentale de la pratique chrétienne, de la piété chrétienne. Autrement dit, la régénération définit vraiment ce qu'est un chrétien. Nous voulons donc, dans le temps que nous avons, nous pencher un peu sur ce fondement de la régénération. Donc le titre du message, c'est « Régénérer par la parole vivante », parce que c'est ce que Pierre dit ici au verset 23. Il dit « Vous avez été régénérés par une semence, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Nous voulons considérer premièrement la nature de la régénération. Dans sa nature, la régénération ou la nouvelle naissance, on pourrait dire, c'est ainsi qu'on le définit, c'est un changement surnaturel qui s'opère dans la vie d'un individu sous l'action du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. C'est ce qu'on peut voir quand on lit l'Écriture. Cependant, il ne faut pas confondre tout changement qu'on pourrait voir dans la vie de quelqu'un et qu'on pourrait observer dans la vie de quelqu'un comme étant la manifestation d'une nouvelle naissance. Il peut y avoir quelqu'un qui n'avait pas pour habitude de faire quelque chose et qui le fait et qui ne soit pas pour autant cette personne régénérée. On peut prendre l'habitude d'assister à un culte alors qu'on ne faisait pas ça avant. Mais ça ne veut pas dire qu'on est un chrétien véritablement pour autant. Hein. Et c'est quand même un changement qui apparaît. C'est une transformation quelque part. C'est que je fais quelque chose que je ne faisais pas auparavant. On peut avoir quelqu'un qui ne chantait pas des cantiques auparavant et puis qui maintenant chante des cantiques. Et on dit, est-ce que c'est un chrétien? Oui, c'est un chrétien, il chante des cantiques. L'Écriture ne le définit pas vraiment ainsi. On peut avoir quelqu'un qui parle, qui prie, alors qu'il ne priait pas avant, et qui n'est pas forcément régénéré au sens où l'Écriture le dit ici. Beaucoup de changements peuvent s'opérer dans la vie d'un individu, et, alors que cet individu ne connaît pas de réelle transformation de son être, c'est ce qu'exprime la nouvelle naissance. Et plusieurs circonstances, d'ailleurs, peuvent produire des changements comportementaux en absence de nouvelle naissance. Jésus, rappelez-vous, il a parlé de la semence des terrains et de la semence qui tombe sur différents types de terrains. Vous vous rappelez de cette parabole, ça, la parabole des terrains ou la parabole du semeur parfois. Eh bien, Jésus parle de plusieurs types de terrains et il parlait dans l'évangile de Luc de ceux qui sont sur le roc et qui croient, du verbe croire, pour un temps. C'est-à-dire qu'ils ont une foi temporelle, une foi superficielle. Et l'Écriture rapporte différentes personnes dont le comportement et les paroles ont pu laisser parfois entrevoir qu'il y avait un signe de nouvelle naissance alors qu'il n'en était rien en réalité. Lorsque, sous les coups de semonce de Dieu dans le pays d'Égypte, le Pharaon dit « J'ai péché ». Il dit ça à Pharaon à un moment donné. Il dit « Non, non, non ». Il dit « Qui est l'Éternel pour que je laisse aller ce peuple ?» Puis à un moment donné, il est là, dos au mur, et il voit vraiment tout ce qui s'est passé dans son pays, toute la désolation qui a été apportée dans son pays. Et il dit à Moïse « J'ai péché ». Mais était-ce vraiment quelque chose qui venait d'un cœur transformé? Eh bien, la suite nous montre que pas du tout. Rappelez-vous du roi Akab qui s'est humilié, n'est-ce pas, s'est promené avec dans des sacs, etc. Et la Bible dit qu'il s'est humilié. Hein, et au point même où Dieu a dit, bon, je n'enverrai pas le malheur tout de suite. Rappelez-vous de Simon le magicien qui a trompé la vigilance de Philippe et qui a certainement dit, je crois, je veux être baptisé, et qui a été baptisé. D'accord. Et puis plus tard, on apprend que, selon les paroles de Pierre, même qu'il était dans un fiel amer. Donc certaines âmes peuvent être éveillées jusqu'à être éclairées, dit la Bible, jusqu'à goûter même la bonne parole de Dieu. Hébreux chapitre 6, verset 5, nous dit cela. Hein, qu'il y a des gens qui goûtent, touchent de près même les choses spirituels, mais qui, pour autant, ne sont pas réellement transformés. Et donc, il ne faut pas confondre un mouvement, une attitude, un langage, des larmes que l'on peut verser, une joie exprimée avec la réalité que cela semble évoquer. Je reviens dans la parabole du semeur, dans Matthieu chapitre 13, Jésus dit, verset 20, « Celui qui a reçu la semence dans un endroit pierreux, c'est celui qui entend la parole et qui la reçoit aussitôt avec joie. » Vous voyez ça ici? Il y a des choses qui sont dans un mouvement de cœur renouvelé. Il entend la parole, qu'est-ce qu'il fait avec? Il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font quand ils entendent la parole? Ils la rejettent, ils la repoussent catégoriquement. Mais il y a parfois qui, comme Jésus le dit ici, la reçoivent, il dit, la reçoit aussitôt, tout de suite, sans différer. Et il y a une joie qui se manifeste, il la reçoit avec joie, mais Jésus ajoute, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. C'est qu'il n'y avait pas de réelle transformation. Rappelez-vous vous connaissez ce livre que nous avons lu ensemble, le voyage du pèlerin. Et j'oublie, c'était facile, je crois, hein, qui s'appelait ce personnage, qui, voilà, tout était beau, tout était bon. Il était vraiment tout feu, tout flamme lorsque le chrétien lui dit, voilà, on marche vers la cité céleste et il est parti avec. Et puis il tombe dans ce qu'on appelle le bourbier du découragement. Et là, il est vite découragé. Il abandonne tout de suite. Il dit, si c'est ça la vie chrétienne, eh bien, c'est pas la peine. Il fait demi-tour et il retourne dans la cité qui devait être détruite. Et l'image détruite. Et l'image ici, c'est vraiment l'image de ceux qui embrassent rapidement, avec une certaine joie, mais où il n'y a pas forcément quelque chose de profond. Et donc, plusieurs circonstances peuvent produire parfois des changements dans la vie des personnes. Parfois, ça peut être la compagnie d'autres chrétiens, ça peut être l'atmosphère. Certaines personnes faisaient remarquer que parfois l'éducation arrive à transformer comportementalement les gens. Les contraintes sociales font que les gens font certaines choses et pas d'autres. Et on pourrait vouloir attribuer des changements qu'il y a dans la vie de quelqu'un presque systématiquement à une nouvelle naissance. Mais il faut, pour comprendre la nouvelle naissance, regarder bien à ce que l'Écriture nous dit. La nouvelle naissance est une œuvre surnaturelle de l'Esprit Saint par la parole de Dieu agissant dans une personne pour une transformation radicale de cette personne, de l'être. Ce n'est pas juste une transformation du geste, c'est une transformation de la personne elle-même. C'est une nouvelle naissance. C'est ce terme-là qui décrit le mieux celui que Jésus choisit. Et c'est ici une œuvre de Dieu, une œuvre surnaturelle que Dieu produit. Ça n'est pas quelque chose que l'homme peut lui-même produire. Personne ne se lève ce matin et dit « Bon, aujourd'hui, je vais naître de nouveau. » Non. Ou « Je vais naître de nouveau dans 3 jours. » Je fais mes calculs, je vais faire ça. J'ai encore deux ou trois trucs à faire qui ne sont pas bien. Et puis dans 3 jours, je vais naître de nouveau. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est une œuvre que Dieu accomplit. L'apôtre Pierre dit, vous avez été régénéré. Il dit pas, vous êtes régénéré. Vous avez été régénéré. Et au chapitre 1, verset 3, il dit, selon Dieu, selon sa grande miséricorde, nous a régénéré. C'est Dieu qui nous a régénéré. Donc rien de l'homme ne peut produire la nouvelle naissance. Et donc de même que nous ne produisons pas notre propre naissance, ce n'est pas le bébé qui a décidé de naître un jour alors qu'il n'était pas. D'accord ? Donc, de même, spirituellement, nous ne produisons pas nous-mêmes notre naissance spirituelle. Alors, les gens peuvent dire, je suis né tel jour. Et c'est vrai, mais ils n'ont pas produit leur naissance. De même, on peut dire, je suis né spirituellement tel jour. Il y a des gens qui disent cela. Je dis, oui, bien sûr, mais c'est pas, ça ne veut pas dire que c'est nous qui l'avons, que c'est vous qui l'avez produit non plus. La nouvelle naissance, c'est une œuvre de Dieu à laquelle il amène à l'existence spirituelle quelqu'un qui n'était pas, qui était spirituellement mort. Et donc, on vient à l'existence spirituelle par l'œuvre souveraine de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, dit l'apôtre Jean, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, pas de moi-même, ni de la volonté de l'homme, mais de qui ? Mais de Dieu. On devient enfant de Dieu par la volonté de Dieu et on est né de Dieu. C'est une œuvre que Dieu accomplit. Ni le sang, ni la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme ne peuvent produire l'indispensable nouvelle naissance. Et Dieu est l'auteur et la source de cette nouvelle naissance. Quand Pierre dit, aimez-vous les uns les autres, puisque vous avez été régénérés, il dit, parce que Dieu a fait quelque chose en vous. Rappelez-vous, il y a un moment. Il vous a fait naître de nouveau. Et donc, la régénération, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre du Saint-Esprit aussi, on le voit dans ce que Jésus dit dans Jean, dans chapitre 3, dans son entretien avec Nicodème. Il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc c'est une œuvre de Dieu. Elle est opérée d'après ce que Pierre dit ici par l'implantation de l'évangile, de la parole de Dieu dans la vie. Il dit, puisque, verset 23, vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Pierre indique ici comment cette régénération, cette nouvelle naissance s'est opérée, par la parole de Dieu. Et à la fin, au verset 25, il dit, et cette parole, c'est celle qui vous a été annoncé par l'Évangile. Et donc, nul ne vient à la nouvelle naissance sans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, on va le voir, conjointement utilisée avec l'Esprit de Dieu, qui régénère. Ici. Alors, on ne comprend pas exactement ce que Dieu fait, plutôt on ne comprend pas ce que Dieu fait exactement dans la régénération. La régénération en soi demeure un mystère pour nous. De même que la naissance aussi, la naissance physique demeure un mystère. Alors on peut expliquer beaucoup de choses dans la naissance physique, mais j'ai regardé il n'y a pas très longtemps un reportage, une émission, c'était un truc scientifique, et où il y avait des chercheurs qui parlaient du cœur, que tout dans l'être humain peut être vu, analysé à partir du cœur. Monsieur, c'était des cardiologues qui parlaient, à partir du cœur. Et cet homme disait, dès qu'on va concevoir un enfant, il dit, il y a quelque chose que l'on n'arrive pas encore à expliquer, c'est que avant qu'il y ait quoi que ce soit, il dit, expliquait, la première chose que l'on détecte, c'est, il disait, c'est tac, tac, une pulsation. Il dit, mais on ne sait pas encore expliquer cela. C'est un mystère pour eux. Quand il y a déjà quelque chose qui bat au rythme de la vie, avant qu'il y ait quoi que ce soit de formé, quoi. Vraiment. Eh bien, il en est de même, je crois, de la nouvelle naissance. Ça demeure pour nous quelque chose de mystérieux. C'est une œuvre, un miracle que Dieu accomplit. L'Écriture ne dit pas exactement la mécanique de tout cela, comment ça se passe. Mais il nous permet, même s'il ne donne pas, n'explique pas exactement comment ça se passe, il nous permet d'avoir les moyens par lesquels cela se passe. Et ici, l'apôtre Pierre dit, vous avez été régénérés par la parole de Dieu, par une semence. Hein. La vie naît toujours d'une semence. La vie physique naît d'une semence. Vous le savez bien. La vie spirituel aussi, naît d'une semence, et cette semence dit, ici, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu écrite, la parole de Dieu prêchée, est la semence que Dieu implante et qui produit la régénération, le fait de naître de nouveau, d'être une nouvelle personne, une nouvelle créature. Jacques 1, verset 18 dit, « Il nous a engendrés, selon sa volonté, par la parole de vérité. » afin que nous soyons en sorte les prémices de ces créatures. Et dans l'Écriture, on trouve à beaucoup d'endroits le fait qu'on vient à la vie par la parole de Dieu. On ne vient pas à la vie en écoutant n'importe quoi, en regardant n'importe quoi. On vient par la parole de Dieu. Il faut que cette semence atteigne le cœur pour générer la vie. La parole de la vérité, c'est-à-dire l'Évangile, c'est la semence par laquelle Dieu régénère les âmes. L'Épître aux Hébreux disait que nous croyons, il disait que c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Donc tout ce que nous voyons a été formé par la parole de Dieu. Dans la création, nous avons été formés par la parole de Dieu. Il a dit, hein, que la lumière soit, que une telle autre chose soit, et ces choses sont venues à l'existence. Et de même, c'est par la parole de Dieu que nous sommes régénérés, que nous pouvons naître de nouveau, que le croyant naît de nouveau. Ça, c'est une réalité que Pierre souligne ici. Éphésiens 4, verset 20 dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité, c'est quoi la vérité? La vérité, c'est la parole de Dieu, la vérité qui est en Jésus-Christ. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard de votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme, le mot c'est nouveau, encore une fois, hein. La nouvelle naissance, c'est un homme nouveau, un être nouveau, l'homme nouveau qui est créé, écoutez bien, selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. La parole de Dieu produit cette création. Mais aussi l'Écriture dit que c'est, et surtout que c'est par le Saint-Esprit est l'agent hein, qui crée cet être nouveau. Dans l'évangile de Jean, rappelez-vous la discussion que Jésus a eue avec le docteur de la loi Nicodème, et où il lui montre que c'est par l'esprit hein, que l'on est de nouveau. Il dit, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il faut naître de nouveau, dit Jésus à Nicodème. Il dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ce n'est pas une question de connaissance doctrinale, ce n'est pas une question de choses que l'on peut suivre scrupuleusement dans sa vie. C'est une question d'avoir une vie, d'être une nouvelle personne, d'être une nouvelle création. Hein. L'apôtre Paul disait ça dans Galates, quoi. Il disait que ce qui est important, ce n'est pas la circoncision ou l'incirconcision, mais c'est d'être une nouvelle créature. D'accord. C'est le fait que Dieu, d'être recréé par Dieu. C'est ça qui est le point de départ et qui est la chose la plus importante. Donc dans Jean chapitre 3, verset 8, Jésus explique à Nicodème, bon, on ne comprend pas ce qui se passe. Il dit, c'est comme le vent. Le vent, il souffle où il veut. Tu sais pas où il vient, mais tu sais pas où il va, mais tu en entends le bruit, tu vois ses effets. Mais le vent lui-même, qui a déjà vu le vent? Hein? Même si on a progressé dans la météo, on peut savoir qu'il y aura du vent, et encore plus ou moins, des fois on est même encore de nos jours surpris, hein, on dit qu'il va faire beau, finalement il pleut un peu, il va pleuvoir, et puis finalement il fait un petit peu beau. Donc ce sont des prévisions, hein, elles ne sont pas toujours certaines. Mais le vent, on n'a jamais vu le vent. On voit les effets du vent, mais le vent, on ne voit pas le vent. C'est pas, et Jésus dit que, et d'ailleurs le mot qui traduit par vent, c'est le même mot qu'on traduit aussi par esprit. Hein, donc Jésus joue avec ces deux choses, on pourrait dire ici. Et il dit à Nicodème que, eh bien, de même qu'on ne sait pas d'où vient le vent et où il va, de même, on ne comprend pas comment l'esprit agit. Mais ce que l'on sait, c'est que quand il a agi, on le voit. On voit ses effets. Et c'est l'esprit qui accomplit ces choses. Et peut-être qu'une belle illustration de cette action conjointe de la parole et de l'esprit est donné dans le livre d'Ézéchiel. Je vous demande de chercher Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37. Alors, je ne dis pas que c'est ce qui se passe, mais voilà, c'est une image que Dieu donne pour parler de la restauration qu'il apportera à son peuple Israël. Mais c'est une image qui emploie à la fois les deux agents de l'esprit et de la parole. Et je crois que c'est, si vous avez jamais lu ce texte, eh bien, ce sera l'occasion pour vous de les découvrir. Ézéchiel 37, verset 1, il dit, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Imaginez, hein, voilà. Il dit, bon, Dieu, des fois, n'a pas, il n'a même pas amené Ézéchiel sous la côte d'Azur à la plage. Hein. Il l'emmène à un endroit où il y a la mort, où depuis longtemps, hein, des ossements desséchés, aucune vie, tout est mort. Il me fit passer, verset 2, auprès d'eux, tout autour, hein, voilà, rapproché de tous ces ossements. Imaginez la scène un peu. Hein. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Ce n'est pas des gens qui venaient de mourir, c'est des ossements. Vous avez déjà vu des ossuaires? Quand vous avez déjà visité une fois un ossuaire à Verdun, ben c'est impressionnant hein, de voir ces choses. Et là, c'est tellement encore davantage, ils étaient remplis. Et puis, verset 3, il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Ézéchiel dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il vint des nerfs, de la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle l'Éternel. L'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux. Et ils reprirent vie. Ils se tinrent sur leurs pieds. Et c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Intéressant. Bon, bien sûr, Dieu donne l'explication après. Il dit, voilà, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je ferai sortir de vos sépulcres mon peuple et je vous ramènerai dans le pays. Pour montrer quelle puissance Dieu a. Et quand Dieu crée la vie, c'est ce qu'il fait. Quand il crée une nouvelle, quand il personne, je veux dire un être nouveau, quand il fait naître de nouveau, alors le texte, c'est pas, là on a plus l'idée, l'image de la résurrection, mais on voit l'action à la fois de la parole de Dieu qui est prêchée et de l'esprit, parce qu'il dit, même avec la parole, il y a eu tout ce que la parole a fait, c'est qu'elle a amené des cadavres. Ils sont passés d'état d'ossement sec à l'état de cadavres. Il y avait de la chair, il y avait de la peau, mais il n'y avait pas de vie, comme quelqu'un qu'on voit qui vient de mourir ici. Et il dit, l'esprit vient et on voit, là, la vie reprend. Et il faut à la fois l'esprit, la parole de Dieu, qui agissent conjointement. C'est ça qu'on voit dans l'évangile. Jésus dit, à moins de naître d'eau et d'esprit. Donc l'esprit de Dieu utilise la parole de Dieu pour faire naître de nouveau ici. Il faut la semence de la parole. Et il faut l'action de l'esprit. Et personne ne vient à la vie en dehors, hors de la parole et l'esprit de Dieu. C'est pour cela que l'Écriture dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais qui c'est qui fait pénétrer ces choses? C'est l'esprit de Dieu qui les fait pénétrer, qui les fait travailler à la recréation de celui qui est mort spirituellement. Donc, elle est la régénération hein, est implantée par la parole de Dieu et est amenée avec l'action conjointe de la parole et de l'esprit de Dieu. Mais elle est aussi, on le voit dans ce que Pierre dit, indestructible. Il dit car toute chair est comme l'herbe. Déjà, il dit que c'est une semence qui est incorruptible. Elle est amenée par la parole vivante et permanente de Dieu. Et puis il ajoute une citation d'Ésaïe 40 où il dit, car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Et il est intéressant de noter dans cette épître, dans ce premier chapitre, comment Pierre insiste sur le caractère indestructible des choses qui touchent au salut. Rappelez-vous au verset chapitre 1 et au verset 3, 4. Je reprends 1 Pierre chapitre 1. Et il dit au verset 4 que Dieu vous a régénéré pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts et pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il est incorruptible, l'héritage dont il parle. Et puis, au verset 18, il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été arrachés de votre vaine manière de vivre, mais par le précieux sang de Jésus-Christ. Autrement dit, il est en train de dire que le moyen, que la rançon qui a été payée est quelque chose d'indestructible, d'impérissable. Et puis ici, au verset 23, il dit que la semence est incorruptible. Donc il y a cette... Et si on lit au chapitre 3, quand il parle de la femme, il parle qu'elle doit avoir dans son cœur cette parure intérieure et cachée. Et il dit que c'est une parure... Il appelle cette parure-là la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Voilà ce caractère indestructible est quelque chose sur lequel l'apôtre Pierre insiste. Et donc il dit que cette vie, cette régénération que Dieu opère est quelque chose qui ne peut jamais être détruite. La vie physique peut être détruite. Et il parle à des personnes qui sont en proie à la difficulté, qui connaissent la persécution et qui peut-être risquent pour leur vie. Et même si cette vie, elle est corruptible, il dit que la vie que l'on a en Jésus-Christ, elle est incorruptible. Quand il régénère de manière définitive et éternelle. On ne peut pas être régénéré et puis après ne plus être régénéré. Il dit que c'est incorruptible. Il donne l'image de cette herbe qui se flétrit, tout se flétrit autour de nous, c'est vrai. Les gouvernements montent et puis descendent, hein. On se croit fort, un petit virus arrive et on est tous faibles. Voilà, ce que l'on voit aujourd'hui peut disparaître demain. Il dit, dans la vie, c'est vrai, les choses sont ainsi comme l'herbe qui passe, hein, et qui flétrit, comme la fleur qui fane. Mais il dit, mais la semence que constitue la parole de Dieu, elle est vivante, elle est permanente. Et ce qu'elle produit à la même nature, ce qui est produit à la même nature que la vie qui est produite par la semence, à la même nature que la semence qui a produit cette vie. Elle est incorruptible. Et dans 1 Jean 3, verset 9, l'apôtre Jean dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. » La semence, elle est toujours là, elle demeure. Elle ne pourra jamais la détruire. Et dans la parabole des terrains, je reviens encore, lorsque Jésus parle dans Luc chapitre 8, il parle de la bonne terre cette fois-ci, laquelle la parole pénètre, de la vraie régénération, du vrai cœur transformé. Il dit ceci en Luc chapitre 8, verset 15, il dit « Celui qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ayant entendu, ceux qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent, portent du fruit avec persévérance. » Voilà. Il dit, c'est un fruit qui demeure. C'est ainsi que l'on voit l'action, que l'on détecte la nature de la régénération ici. Donc elle est indestructible, la régénération, mais elle est aussi un changement, on a dit, intérieur, radical, mystérieux, instantané et invisible. 2 Corinthiens 5, 17, dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a une radicalité, c'est une nouvelle créature, ce n'est pas juste un arrangement, une amélioration. D'accord, de quelque chose, c'est une nouvelle créature, avec de nouvelles choses. Les choses anciennes sont passées, il dit, toutes choses sont devenues nouvelles. La régénération, c'est la venue à l'existence d'une personne en tant que chrétien, alors qu'à l'instant d'avant, elle ne l'était pas. C'est ça qu'il faut saisir. À l'instant T moins 1, il n'est pas chrétien à l'instant T, la personne est devenue une nouvelle nature. Et en ce, c'est un miracle hein, que Dieu fait, qui est décrit bien dans Ézéchiel quand il dit je viens et j'enlève votre cœur de pierre et je vous donne un cœur de chair et je vous rends capable d'obéir et d'observer à toutes mes lois. C'est vraiment quelque chose que Dieu fait et qui est miraculeux, mais qui est un changement radical de la personne et des dispositions intérieures de cette personne et de ses affections. Écoutez comment J.C. Ryle le dit, c'est un évêque anglican du 19e siècle, il dit « Naître de nouveau, c'est pour ainsi dire entrer dans la nouvelle existence, avoir un nouvel esprit et un nouveau cœur. De nouvelles vues, de nouveaux principes, de nouveaux goûts, de nouvelles affections, de nouvelles aversions, de nouvelles craintes, de nouvelles joies, de nouvelles peines, un nouvel amour pour les choses autrefois haïes, une nouvelle haine pour les choses autrefois aimées, de nouvelles pensées de Dieu et de nous-mêmes, du monde et de la vie à venir, et les moyens d'atteindre cette vie. Et il est vrai que celui qui est passé par là est un nouvel homme, une nouvelle créature, une nouvelle femme aussi. Car les vieilles choses sont passées, et voici, il peut dire, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça, être un chrétien. C'est ça, être un chrétien. C'est d'avoir de nouvelles affections. L'Écriture dit, l'apôtre Paul dit en Romains chapitre 8, Romains chapitre 8 et au verset 9, il dit pour vous, au verset 5, il dit « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, qui ont l'esprit de Dieu maintenant en eux, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Et il ajoute, verset 7, « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. » Et ce que fait la nouvelle naissance, c'est qu'elle fait de quelqu'un qui ne peut même pas se soumettre à la loi de Dieu, quelqu'un qui maintenant se soumet grâce à la présence de l'Esprit en lui à la loi de Dieu et qui peut y obéir, selon ce que Dieu dit dans Ézéchiel au chapitre 36. Je voudrais juste terminer avec ce second point, après avoir vu un peu la nature ici de la régénération, la nature de la nouvelle naissance. Quelles sont les marques de la nouvelle naissance? Quelles sont les marques de la régénération? Si la régénération demeure une œuvre mystérieuse, on ne connaît pas la mécanique, comment les choses se passent, on sait par quels moyens Dieu les produit, mais elles se manifestent inévitablement par des marques bien visibles. La naissance, c'est le début de la vie. Quand quelqu'un vient à la naissance, la personne vit. Ça se voit qu'elle est née parce qu'on voit qu'elle vit, elle respire, etc. Elle réagit comme quelqu'un de vivant. Et Jésus dit à Nicodème, le vent, je reprends ce passage, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il va ni où il vient. Mais il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. C'est-à-dire, on en ressent les effets. Il ne peut y avoir de vie nouvelle sans manifestation, de nouvelle naissance sans manifestation de vie nouvelle. C'est ce que Jésus dit ici. Le Saint-Esprit est souverain, il dit. Le mécanisme de la nouvelle naissance, son modus operandi, on ne le connaît pas. Hein. Mais le Saint-Esprit, quand il demeure quelque part, eh bien, ses actions ne restent pas cachées, elles sont bien visibles. Et le point de Jésus, c'est de dire qu'il en est ainsi. Ça veut dire qu'il n'en est pas autrement. Si Jésus dit, c'est comme ça que ça se passe pour quelqu'un qui a reçu l'Esprit, c'est-à-dire que ça ne peut pas être autrement que cela. Il y a forcément la manifestation de signes visibles. Le Saint-Esprit produit inévitablement des effets. Il y a la question de Nicodème, rappelez-vous, il dit, mais comment cela peut-il se faire? Eh bien, Jésus ne répond pas, ne dit pas comment cela peut-il se faire, mais Jésus dit comment reconnaître que cela s'est fait. Vous voyez? On n'a pas l'explication sur comment ça se passe, mais on a l'explication sur comment on voit que ça s'est passé. Et c'est ça qui est important pour nous, ici. La seule explication que le Seigneur Jésus donne est bien souvent celle du résultat et du fruit qui sont l'effet de la réalité de la nouvelle naissance. Alors, quelles sont les marques? Rapidement pour clore ici. Pierre dit ici qu'ils doivent s'aimer d'un amour sincère, véritable, parce qu'ils sont régénérés. Autrement dit, l'amour fraternel véritable et l'amour pour les frères est une marque de la nouvelle vie, de la régénération, du fait d'être né de nouveau. Si je dis, moi, tant que je suis avec le Seigneur et moi-même, les autres, je n'ai rien à faire, il y a quelque chose qui est contradictoire. Parce que la caractéristique même de cette vie nouvelle, c'est de produire en nous l'amour pour les autres, l'amour véritable pour les autres. Dans mon foyer, dans mon entourage, et particulièrement pour les frères et sœurs dans la foi. Et c'est exactement ce que l'apôtre Jean dit quand il dit l'amour pour les frères, hein, c'est vraiment la marque que l'on est né de Dieu. 1 Jean 4, verset 7, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. » Et quiconque aime est né de Dieu. La nouvelle naissance, la régénération. Celui qui aime, il est né de Dieu et il connaît Dieu. Donc une marque, c'est l'amour sincère avec l'ardeur que l'apôtre Pierre décrit ici dans le verset 22. Mais il parle aussi de l'obéissance. Il dit, ayant purifié vos âmes pour obéir à la vérité. L'obéissance à la parole de Dieu est une manifestation de la réalité de la vie nouvelle. Celui qui est né de nouveau, il obéit. Il obéit. Et l'Écriture le souligne à plusieurs endroits. L'apôtre Pierre parle aussi au verset 15 de la sainteté. « Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. » Et donc, la sainteté dans la vie, la recherche de la pureté dans la vie est la manifestation que l'on a reçue cette vie nouvelle. Mais dans l'Écriture, on trouve plusieurs autres marques et je voudrais en citer deux. Dans 1 Jean 5, 1 que le frère a lu ce matin, nous avons qu'une marque de la nouvelle naissance, c'est la foi en Jésus-Christ. 1 Jean 5, 1. Quiconque croit en Jésus, croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu. Celui qui croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Quelqu'un ne peut pas dire, moi, je suis un chrétien, mais Jésus-Christ, je ne crois pas. Ce qu'il a fait, sa mort, sa résurrection, ce qu'il dit, je n'y crois pas. C'est impossible. C'est impossible. Ce que la nouvelle naissance produit en nous, la caractéristique, c'est qu'elle nous permet de croire véritablement en Jésus-Christ, dans tout ce qu'il dit. Je crois que ce qu'il dit, je le reçois, je mets en pratique sa parole, je viens à lui, je l'aime, j'aime le rechercher dans sa parole. C'est ça que ça veut dire. Et puis, une dernière marque, mais ce n'est pas la seule, hein, mais l'apôtre Jean la souligne très fortement. 1 Jean 3, verset 9, Il dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est un verset qui est extrêmement fort, ça, je trouve. Il dit qu'une marque particulière de la nouvelle naissance, c'est le rapport que l'on entretient avec le péché dans notre vie. On ne peut pas dire « je suis un chrétien, je suis né de nouveau » et vivre dans le péché. Cela ne signifie pas, bien sûr, que le véritable chrétien est parfait et qu'il ne pêche plus du tout. Ça n'existe pas. Mais le rapport au péché est complètement différent. Prenez quelqu'un qui ne connaît pas du tout Dieu. Vous lui parlez de péché. Déjà, quand vous parlez le mot péché, vous dites « oh là, oh là, hein ? Qu'est-ce que tu me racontes là ?» D'accord ? Parlez-lui de faute, parlez-lui d'erreur, parlez-lui de, voilà, maladresse, mais pas de péché. Et parfois, on peut se dire chrétien et puis jouer avec ces choses. Hein. Oui, j'ai commis une faute. Ouais, c'est vrai, bon, c'est pas terrible ce que j'ai fait, je reconnais, mais... Non, la Bible dit ici que celui qui est né de Dieu, il ne pratique pas le péché. Il ne vit pas dans le péché. Il ne se complaît pas dans le péché. Il a en lui un principe de vie qui agit et qui le mène à faire la guerre contre le péché, selon ce que Paul dit dans Romains 8, verset 13. Hein. Il veut faire mourir le péché dans sa vie. Il poursuit le péché là où il est et il veut en extirper jusqu'à la racine. Il est motivé, il est mu par ce désir-là. Tout ce qu'il fait, c'est de caresser le péché dans le sens du poil et de se complaire avec, eh bien, il ne peut pas soutenir en même temps qu'il est né de nouveau. Bibliquement, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. C'est Jésus qui le dit, c'est Dieu qui le dit par le Saint-Esprit. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il appelle le péché péché, il n'appelle pas ça une faute ou une erreur. Son désir le plus vif, c'est de s'éloigner le plus rapidement et le plus catégoriquement du péché. Tout de suite, hein, on parlait avec un frère, on parlait d'obéissance. On dit l'obéissance n'est jamais quelque chose que l'on n'est jamais quelque chose qui se fait par palier. On n'obéit pas. J'ai presque obéi à Dieu. Ça n'existe pas. On obéit ou on n'obéit pas. Si on n'a pas fait exactement ce qu'il a dit, c'est qu'on a désobéi. D'accord ? Si on a volé 10 pommes, on a désobéi. Mais si on a volé 5 pommes seulement, on me dit « avant j'en volais 10, maintenant j'en vole 5 ». Ben, on est toujours désobéissant. D'accord ? Ce n'est pas la quantité de choses qu'on a faites, c'est le fait de ne pas accomplir la volonté de Dieu. Il dit ici, il dit voilà, qu'il faut s'éloigner du péché. Et chers frères et sœurs, c'est quelque chose qui est très très difficile pour nous parce qu'on est tellement submergé par beaucoup de choses. Hein. On va rentrer chez nous cet après-midi, peut-être que voilà, ce qu'on va avoir envie de faire, c'est de s'asseoir tranquillement dans le canapé, tourner le bouton de la télé pour regarder je ne sais quoi, et puis risquer de pécher, ça peut arriver. Donc, cette parole de Dieu nous appelle à considérer comment nous vivons, quel rapport nous entretenons avec le péché sous toutes ses formes. Et pour les uns, c'est une chose, pour les autres, c'est une chose, pour vous, c'est une chose, pour moi, c'est une autre chose. D'accord ? Mais quel rapport nous entretenons avec le péché ? Est-ce que, comme il est dit, je crois que dans l'Épître aux Hébreux, quand il disait, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang contre le péché. Le péché, c'est quelque chose contre lequel on doit lutter. Le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable, dit la Bible, pour détruire le péché. Il est venu pour ôter le péché. C'est l'anneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que né de nouveau, on ne peut pas jouer avec ces choses, sous quelque forme que ce soit. On doit au contraire demander à Dieu de nous éclairer pour nous montrer où est-ce qu'il se cache dans notre vie à travers tout ce que nous faisons. Peut-être nous sommes aveuglés, nous ne voyons pas que nous péchons, mais nous le faisons pour pouvoir l'en extirper. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, tu la coupes. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, tu l'arraches. Ça veut dire qu'il faut être radical. C'est ce que Dieu dit ici. Et donc, je prends ce passage. Et celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. cette semence de vie qui permet d'être victorieux sur le péché, demeure en lui. Et Jean dit, il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Alors ça veut dire qu'il ne pêche. Ça ne veut pas dire qu'il ne pêche pas du tout, parce que le même apôtre Jean dit, si nous disons que nous ne péchons pas, nous mentons, nous sommes menteurs et nous faisons Dieu menteur. Donc nous péchons. Mais il dit que le principe de vie, c'est qu'il ne pêche pas. C'est ça le principe. Il ne pêche pas. Et donc quand il pêche, il s'en détourne. Il est terrassé par ce qu'il a fait. Il est conscient d'avoir péché contre Dieu. Et il vient, il se repent. Mais il ne demeure pas dans le péché. S'il le pratique, s'il y demeure, s'il s'y complaît, il ne peut pas, avec tranquillité d'esprit, parler de nouvelle naissance. Qu'est-ce qu'un chrétien ? Un chrétien, c'est celui qui est régénéré par l'Esprit de Dieu, au moyen de la parole de Dieu, qui a connu dans sa vie une transformation de son être, et qui vit comme un bébé naît. La régénération, c'est le début, c'est pas la fin, c'est le début. On naît et après on vit. Et les muscles spirituels se développent et les affections se développent. Mais il y a un point de départ qui est le fait que Dieu a accompli une œuvre véritablement qui nous transforme. Et c'est pour cela que quand nous parlons à quelqu'un, nous ne pouvons pas exiger de quelqu'un qui n'est pas chrétien qu'il fasse ce que Dieu commande aux chrétiens. Nous devons prier pour que Dieu touche son cœur, pour qu'elle la transforme. Et si vous êtes là ce matin, vous dites, je ne sais pas où j'en suis avec le Seigneur, mais priez, demandez à Dieu de vous sauver, de vous transformer, de vous faire naître de nouveau, de vous donner de nouvelles dispositions, un nouveau cœur. Comme David le disait dans sa prière de repentance, « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. » Renouvelle en moi, voilà un mot encore qui parle de régénération. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Que cela soit notre prière. Et ne nous contentons pas de croire que parce que nous faisons ceci, nous chantons à la chorale, nous avons ceci, nous prêchons, ou nous distribuons, ou nous faisons des choses, que tout est OK. Jésus a dit, c'est plutôt Jean-Baptiste qui disait, produisez des fruits dignes de la repentance et ne vous contentez pas de dire en vous-même, nous avons pour père Abraham, ce n'est pas ce qui doit nous contenter. C'est ce qu'on doit rechercher, c'est vraiment cette transformation réelle, ce cœur réel. Et si le cœur réel est là, eh bien, obéissons à la parole de Dieu. Aimons-nous les uns les autres. Éloignons-nous du péché. Vivons dans la sainteté. Parce que Dieu nous a donné son esprit qui nous rend capables de vivre ainsi. Pierre dit, aimez-vous ardemment les uns les autres. Parce que vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été prêchée par l'Évangile. Donc écoutons l'Évangile et laissons l'Esprit de Dieu nous transformer à la gloire de son nom. Merci pour ta parole, Seigneur, et nous te demandons que tu agisses par ton esprit en nous. Donne-nous de ne pas nous abuser nous-mêmes, de ne pas ne pas croire que nous sommes ce que nous ne sommes pas forcément. Tu connais ceux qui t'appartiennent et tu dis que tes brebis te connaissent aussi. Et merci pour l'assurance que tu mets dans le cœur de chacun de tes enfants. Mais nous te prions, Seigneur, pour que tu nous aides à vivre d'une manière qui t'honore. Nous te prions, Seigneur, pour que tu nous aides à rechercher ce qui te plaît, à nous soumettre à ta parole, à obéir à ta parole parce que tu nous as régénérés, à venir à toi si nous ne te connaissons pas, parce que tu nous appelles à venir à toi. Tu dis, il faut naître de nouveau, c'est une nécessité sans laquelle nul ne peut voir le royaume de Dieu. Seigneur, agis par ton esprit dans le cœur de chacun ici ce matin, dans nos cœurs, pour la gloire de ton nom. Amen.